Les hyènes marchaient devant lui, le loup et le sanglier par derrière. Le taureau, à sa droite, balançait la tête. Et à sa gauche, le serpent ondulait dans les herbes. Tandis que la panthère, bombant son dos, avançait à pas de velours et à grandes enjambées, il allait le plus lentement possible pour ne pas les irriter. Et il voyait sortir de la profondeur des buissons des porcs-épics, des renards, des vipères, des chacals et des ours. Julien se mit à courir. Ils coururent. Le serpent sifflait. Les bêtes puantes bavaient. Le sanglier lui frottait les talons avec ses défenses. Le loup, l'intérieur des mains avec les poils de son museau. Les singes le pinçaient en grimaçant. La fouine se roulait sur ses pieds. Un ours, d'un revers de patte, lui enleva son chapeau. Et la panthère, dédaigneusement, laissa tomber une flèche qu'elle portait à sa gueule. Une ironie perçait dans leurs allures sournoises, tout en l'observant du coin de leurs prunelles. Ils semblaient méditer un plan de vengeance. Et, assourdi par le bourdonnement des insectes, battu par des queues d'oiseaux, suffoqué par des haleines, il marchait les bras tendus et les paupières closes comme un aveugle, sans même avoir la force de crier grâce. Le chant d'un coq vibra dans l'air. D'autres y répondirent. C'était le jour, et il reconnut, au-delà des orangers, le faîte de son palais. Puis, au bord d'un champ, il vit à trois pas d'intervalle des perdrix rouges qui voletaient dans l'œil chaume. Il dégrafa son manteau et l'abattit sur elle comme un filet. Quand il les eut découvertes, il n'en trouva qu'une seule et mort depuis longtemps, pourrie. Cette déception l'exaspéra plus que toutes les autres. Sa soif de carnage le reprenait. Les bêtes manquant, il aurait voulu massacrer des hommes. Il gravit les trois terrasses, enfonça la porte d'un coup de poing, mais au bas de l'escalier, le souvenir de sa chère femme détendit son cœur. Elle dormait sans doute, et il allait la surprendre. Ayant retiré ses sandales, il tourna doucement la serrure et entra. Les vitraux garnis de plomb obscurcissaient la pâleur de l'aube. Julien se prit les pieds dans des vêtements, par terre. Un peu plus loin, il heurta une crédence, encore chargée de vaisselle. Sans doute elle aura mangé, se dit-il. Et il avançait vers le lit, perdu dans les ténèbres au fond de la chambre. Quand il fut au bord, afin d'embrasser sa femme, il se pencha sur l'oreiller, où les deux têtes reposaient, l'une près de l'autre. Alors il sentit contre sa bouche l'impression d'une barbe. Il se recula, croyant devenir fou, mais il revint près du lit, et ses doigts, en palpant, rencontrèrent des cheveux qui étaient très longs. Pour se convaincre de son erreur, il repassa lentement sa main sur l'oreiller. C'était bien une barbe, cette fois, et un homme couché avec sa femme. Éclatant d'une colère démesurée, il bondit sur eux à coups de poignard. Et il trépignait, écumait avec des hurlements de bêtes fauves. Puis, il s'arrêta. Les morts, percés au cœur, n'avaient pas même bougé. Il écoutait attentivement leurs deux râles, presque égaux. Et à mesure qu'ils s'affaiblissaient, un autre, tout au loin, les continuait. Incertaine d'abord, cette voix plaintive, longuement poussée, se rapprochait, s'enfla, devint cruelle. Et il reconnut, terrifié, le bramant du grand cerf noir. Et comme il se retournait, il crut voir, dans l'encadrure de la porte, le fantôme de sa femme, une lumière à la main. Le tapage du meurtre l'avait attiré. D'un large coup d'œil, elle comprit tout. Et, s'enfuyant d'horreur, elle laissa tomber son flambeau. Il le ramassa. Son père et sa mère étaient devant lui, étendus sur le dos, avec un trou dans la poitrine. Et leur visage, d'une majestueuse douceur, avait l'air de garder comme un secret éternel. Des éclaboussures et des flaques de sang s'étalaient au milieu de leur peau blanche, sur les draps du lit, par terre, le long d'un crisse d'ivoire suspendu dans l'alcôve. Le reflet écarlate du vitrail, alors frappé par le soleil, éclairait ses taches rouges et en jetait de plus nombreuses dans tout l'appartement. Julien marcha vers les deux morts, en se disant, en voulant croire que cela n'était pas possible, qu'il s'était trompé, qu'il y a parfois des ressemblances inexplicables. Enfin, il se baissa légèrement pour voir de tout près le vieillard. Et il aperçut, entre ses paupières mal fermées, une prunelle éteinte qui le brûla comme du feu. Puis, il se porta de l'autre côté de la couche, occupé par l'autre corps, dont les cheveux blancs masquaient une partie de la figure. Julien lui passa les doigts sous ses bandeaux, leva sa tête, et il la regardait, en la tenant au bout de son bras roidi, pendant que de l'autre main, il s'éclairait avec le flambeau. Des gouttes suintant du matelas tombaient une à une sur le plancher. À la fin du jour, il se présenta devant sa femme, et d'une voix différente de la sienne, il lui commanda, premièrement, de ne pas lui répondre, de ne pas l'approcher, de ne plus même le regarder, et qu'elle eût à suivre, sous peine de damnation, tous ses ordres qui étaient irrévocables. Les funérailles seraient faites selon les instructions qu'il avait laissées par écrit, sur un prie-dieu, dans la chambre des morts. Il lui abandonnait son palais, ses vassaux, tous ses biens, sans même retenir les vêtements de son corps et ses sandales que l'on trouverait en haut de l'escalier. Elle avait obéi à la volonté de Dieu en occasionnant son crime et devait prier pour son âme puisque désormais il n'existait plus. On enterra les morts avec magnificence dans l'église d'un monastère à 3 journées du château. Un moine, en cagoule rabattue, suivit le cortège, loin de tous les autres, sans que personne osât lui parler. Il resta, pendant la messe, à plat ventre, au milieu du portail, les bras en croix et le front dans la poussière. Après l'ensevelissement, on le vit prendre le chemin qui menait aux montagnes. Il se retourna plusieurs fois et finit par disparaître.